La Chartreuse de Parme, livre 2, chapitre 22. Dans la journée, Fabrice fut attaqué par quelques réflexions sérieuses et désagréables. Mais à mesure qu'il entendait sonner les heures qui le rapprochaient du moment de l'action, il se sentait allègre et dispos. La duchesse lui avait écrit qu'il serait surpris par le grand air, et qu'à peine hors de sa prison, il se trouverait dans l'impossibilité de marcher. Dans ce cas, il valait mieux pourtant s'exposer à être repris que se précipiter du haut d'un mur de 180 pieds. « Si ce malheur m'arrive, disait Fabrice, je me coucherai contre le parapet. Je dormirai une heure, puis je recommencerai. Puisque je l'ai juré à Clélia, j'aime mieux tomber du haut d'un rempart, si élevé qu'il soit, que d'être toujours à faire des réflexions sur le goût du pain que je mange. Quelles horribles douleurs ne doit-on pas éprouver avant la fin, quand on meurt empoisonné ? Fabio Conti n'y cherchera pas de façon. Il me fera donner de l'arsenic avec lequel il tue les rats de sa citadelle. » Vers le minuit, un de ces brouillards épais et blancs que le Pô jette quelquefois sur ses rives s'étendit d'abord sur la ville, et ensuite gagna l'esplanade et les bastions au milieu desquels s'élève la grosse tour de la citadelle. Fabrice crut voir que du parapet de la plateforme, on n'apercevait plus les petits acacias qui environnaient les jardins établis par les soldats au pied du mur de 180 pieds. « Voilà qui est excellent, » pensa-t-il. Un peu après que minuit et demi eut sonné, le signal de la petite lampe parut à la fenêtre de la volière. Fabrice était prêt à agir. Il fit un signe de croix, puis attacha à son lit la petite corde destinée à lui faire descendre les 35 pieds qui le séparaient de la plateforme où était le palais. Il arriva sans encombre sur le toit du corps de garde occupé depuis la veille par les 200 hommes de renfort dont nous avons parlé. Par malheur, les soldats, à minuit trois quarts qu'il était alors, n'étaient pas encore endormis. Pendant qu'ils marchaient à pas de loup sur le toit de grosses tuiles creuses, Fabrice les entendait, qui disaient que le diable était sur le toit et qu'il fallait essayer de le tuer d'un coup de fusil. Quelques voix prétendaient que ce souhait était d'une grande impiété. D'autres disaient que si l'on tirait un coup de fusil sans tuer quelque chose, le gouverneur les mettrait tous en prison pour avoir alarmé la garnison inutilement. Toute cette belle discussion faisait que Fabrice se hâtait le plus possible en marchant sur le toit, et qu'il faisait beaucoup plus de bruit. Le fait est qu'au moment où, pendu à sa corde, il passa devant les fenêtres, par bonheur, à 4 ou 5 pieds de distance à cause de l'avance du toit, elles étaient hérissées de baïonnettes. Quelques-uns ont prétendu que Fabrice, toujours fou, eut l'idée de jouer le rôle du diable et qu'il jeta à ses soldats une poignée de sequins. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait semé des sequins sur le plancher de sa chambre et il en sema aussi sur la plateforme dans son trajet de la tour Farnèse au parapet, afin de se donner la chance de distraire les soldats qui auraient pu se mettre à le poursuivre. Arrivé sur la plateforme et entouré de sentinelles qui ordinairement criaient tous les quarts d'heure une phrase entière, « Tout est bien autour de mon poste !» Il dirigea ses pas vers le parapet du couchant et chercha la pierre neuve. Ce qui paraît incroyable et pourrait faire douter du fait si le résultat n'avait pas eu pour témoin une ville entière, c'est que les sentinelles placées le long du parapet n'avaient pas vu et arrêté Fabrice. À la vérité, le brouillard dont nous avons parlé commençait à monter. Et Fabrice a dit que lorsqu'il était sur la plateforme, le brouillard lui semblait arriver déjà jusqu'à la moitié de la tour Farnèse. Mais ce brouillard n'était point épais, et il apercevait fort bien les sentinelles dont quelques-unes se promenaient. Il ajouta que, poussé par une force surnaturelle, il alla se placer hardiment entre deux sentinelles assez voisines. Il défit tranquillement la grande corde qu'il avait autour du corps et qui s'embrouilla deux fois. Il lui fallut beaucoup de temps pour la débrouiller et l'étendre sur le parapet. il entendait les soldats parler de tous les côtés, bien résolu à poignarder le premier qui s'avancerait vers lui. « Je n'étais nullement troublé, » ajoutait-il. « Il me semblait que j'accomplissais une cérémonie. » Il attacha sa corde, enfin débrouillée, à une ouverture pratiquée dans le parapet pour l'écoulement des eaux. Il monta sur ce même parapet et pria Dieu avec ferveur. Puis, comme un héros des temps de chevalerie, il pensa un instant à Clélia. « Combien je suis différent, se dit-il, du Fabrice léger et libertin qui entra ici il y a 9 mois. » Enfin, il se mit à descendre cette étonnante hauteur. Il agissait mécaniquement, dit-il, et comme il l'eût fait en plein jour, descendant devant des amis pour gagner un pari. Vers le milieu de la hauteur, il sentit tout à coup ses bras perdre leur force. Il croit même qu'il lâcha la corde un instant, mais bientôt il la reprit. « Peut-être, dit-il, il se retint aux broussailles sur lesquelles il glissait et qu'il écorchait. Il éprouvait de temps à autre une douleur atroce entre les épaules. Elle allait jusqu'à lui ôter la respiration. Il y avait un mouvement d'ondulation fort incommode. Il était renvoyé sans cesse de la corde aux broussailles. Il fut touché par plusieurs oiseaux assez gros qu'il réveillait et qui se jetaient sur lui en s'envolant. Les premières fois, il crut être atteint par des gens descendant de la citadelle, par la même voie que lui pour le poursuivre, et il s'apprêtait à se défendre. Enfin, il arriva au bas de la grosse tour, sans autre inconvénient que d'avoir les mains en sang. Il raconte que depuis le milieu de la tour, le talus qu'elle forme lui fut fort utile. Il frottait le mur en descendant, et les plantes qui croissaient entre les pierres le retenaient beaucoup. En arrivant en bas dans les jardins des soldats, il tomba sur un acacia qui, vu d'en haut, lui semblait avoir 4 ou 5 pieds de hauteur et qui en avait réellement 15 ou 20. Un ivrogne, qui se trouvait là endormi, le prit pour un voleur. En tombant de cet arbre, Fabrice se démit presque le bras gauche. Il se mit à fuir vers le rempart, mais, à ce qu'il dit, ses jambes lui semblaient comme du coton. Il n'avait plus aucune force. Malgré le péril, il s'assit et but un peu d'eau-de-vie qui lui restait. Il s'endormit quelques minutes au point de ne plus savoir où il était. En se réveillant, il ne pouvait comprendre comment, se trouvant dans sa chambre, il voyait des arbres. Enfin, la terrible vérité revint à sa mémoire. Aussitôt, il marcha vers le rempart. Il y monta par un grand escalier. La sentinelle, qui était placée tout près, ronflait dans sa guérite. Il trouva une pièce de canon, gisant dans l'herbe. Il y attacha sa 3e corde. Elle se trouva un peu trop courte, et il tomba dans un fossé bourbeux où il pouvait y avoir un pied d'eau. Pendant qu'il se relevait et cherchait à se reconnaître, il se sentit saisi par 2 hommes. Il eut peur un instant, mais bientôt il entendit prononcer près de son oreille et à voix basse « Ah, monseigneur, monseigneur !» Il comprit vaguement que ces hommes appartenaient à la duchesse. Aussitôt, il s'évanouit profondément. Quelque temps après, il sentit qu'il était porté par des hommes qui marchaient en silence et fort vite. Puis on s'arrêta, ce qui lui donna beaucoup d'inquiétude. Mais il n'avait ni la force de parler, ni celle d'ouvrir les yeux. Il sentit qu'on le serrait. Tout à coup, il reconnut le parfum des vêtements de la duchesse. Ce parfum le ranima. Il ouvrit les yeux, il put prononcer les mots « Ah, cher ami !» Puis il s'évanouit de nouveau profondément. Le fidèle Bruno, avec une escouade de gens de police dévoués au comte, était en réserve à 200 pas. Le comte lui-même était caché dans une petite maison tout près du lieu où la duchesse attendait. Il n'eût pas hésité, s'il l'eût fallu, à mettre l'épée à la main avec quelques officiers à demi-solde, ses amis intimes. Il se regardait comme obligé de sauver la vie à Fabrice, qui lui semblait grandement exposé, et qui jadis eut sa grâce signée du prince, si lui, Mosca, n'eût eu la sottise de vouloir éviter une sottise écrite au souverain. Depuis minuit, la duchesse, entourée d'hommes armés jusqu'aux dents, errait dans un profond silence devant les remparts de la citadelle. Elle ne pouvait rester en place. Elle pensait qu'elle aurait à combattre pour enlever Fabrice à des gens qui le poursuivraient. Cette imagination ardente avait pris 100 précautions, trop longues à détailler ici, et d'une imprudence incroyable. On a calculé que plus de 80 agents étaient sur pied cette nuit-là, s'attendant à se battre pour quelque chose d'extraordinaire. Par bonheur, Ferrante et Ludovic étaient à la tête de tout cela, et le ministre de la police n'était pas hostile. Mais le comte lui-même remarqua que la duchesse ne fut trahie par personne et qu'il ne sut rien comme ministre. La duchesse perdit la tête absolument en revoyant Fabrice. Elle le serrait convulsivement dans ses bras, puis fut au désespoir en se voyant couverte de sang. C'était celui des mains de Fabrice. Elle le crut dangereusement blessé. Aidée d'un de ses gens, elle lui ôtait son habit pour le panser. Lorsque Ludovic, qui par bonheur se trouvait là, mit d'autorité la duchesse et Fabrice dans une des petites voitures qui étaient cachées dans un jardin près de la porte de la ville, et l'on partit ventre à terre pour aller passer le pot près de Sacca. Ferrante, avec 20 hommes bien armés, faisait l'arrière-garde et avait promis sur sa tête d'arrêter la poursuite. Le comte, seul et à pied, ne quitta les environs de la citadelle que 2 heures plus tard, quand il vit que rien ne bougeait. « Me voici en haute trahison !» se disait-il, ivre de joie. Ludovic eut l'idée excellente de placer dans une voiture un jeune chirurgien attaché à la maison de la duchesse et qui avait beaucoup de la tournure de Fabrice. « Prenez la fuite, lui dit-il, du côté de Bologne. Soyez fort maladroit, tâchez de vous faire arrêter. » Alors, coupez-vous dans vos réponses, et enfin avouez que vous êtes Fabrice Del Dongo. Surtout, gagnez du temps. Mettez de l'adresse à être maladroit. Vous en serez quitte pour 1 mois de prison, et madame vous donnera 50 sequins. Est-ce qu'on songe à l'argent quand on sert madame ? Il partit et fut arrêté quelques heures plus tard, ce qui causa une joie bien plaisante au général Fabio Conti et à Rassi, qui, avec le danger de Fabrice, voyait s'envoler sa baronnie. L'évasion ne fut connue à la citadelle que sur les 6 heures du matin, et ce ne fut qu'à 10 qu'on osa en instruire le prince. La duchesse avait été si bien servie que, malgré le profond sommeil de Fabrice, qu'elle prenait pour un évanouissement mortel, ce qui fit que 3 fois elle fit arrêter la voiture, elle passait le pot dans une barque comme 4 heures sonnaient. Il y avait des relais sur la rive gauche, on fit encore 2 lieues avec une extrême rapidité, puis on fut arrêté plus d'une heure pour la vérification des passeports. La duchesse en avait de toutes les sortes pour elle et pour Fabrice, mais elle était folle ce jour-là. Elle s'avisa de donner 10 napoléons au commis de la police autrichienne et de lui prendre la main en fondant en larmes. Ce commis, fort effrayé, recommença l'examen. On prit la poste. La duchesse payait d'une façon si extravagante que partout elle excitait les soupçons en ce pays où tout étranger est suspect. Ludovic lui vint encore en aide. Il dit que madame la duchesse était folle de douleur à cause de la fièvre continue du jeune comte Mosca, fils du premier ministre de Parme, qu'elle emmenait avec elle consulter les médecins de Pavie. Ce ne fut qu'à 10 lieues par-delà le pot que le prisonnier se réveilla tout à fait. Il avait une épaule luxée et force écorchure. La duchesse avait encore des façons si extraordinaires que le maître d'une auberge de village, où l'on dîna, crut avoir affaire à une princesse du sang impérial et allait lui faire rendre les honneurs qu'il croyait lui être dus. Lorsque Ludovic dit à cet homme que la princesse le ferait immanquablement mettre en prison s'il s'avisait de faire sonner les cloches. Enfin, sur les 6 heures du soir, on arriva au territoire piémontais. Là seulement, Fabrice était en toute sûreté. On le conduisit dans un petit village écarté de la grande route. On pansa ses mains et il dormit encore quelques heures. Ce fut dans ce village que la duchesse se livra à une action non seulement horrible aux yeux de la morale, mais qui fut encore bien funeste à la tranquillité du reste de sa vie. Quelques semaines avant l'évasion de Fabrice, et un jour que Touparme était à la porte de la citadelle pour tâcher de voir dans la cour l'échafaud qu'on dressait en son honneur, la duchesse avait montré à Ludovic, devenu le factotum de sa maison, le secret au moyen duquel on faisait sortir d'un petit cadre de fer, fort bien caché, une des pierres formant le fond du fameux réservoir d'eau du palais San Severina, ouvrage du XIIIe siècle et dont nous avons parlé. Pendant que Fabrice dormait dans la trattoria de ce petit village, la duchesse fit appeler Ludovic. Il la crut devenue folle, tant les regards qu'elle lui lançait étaient singuliers. « Vous devez vous attendre, lui dit-elle, que je vais vous donner quelques milliers de francs. Eh bien non, je vous connais, vous êtes un poète, vous auriez bientôt mangé cet argent. Je vous donne la petite terre de la Ricciarda à une lieue de Casal Maggiore. » Ludovic se jeta à ses pieds, fou de joie, et protestant avec l'accent du cœur que ce n'était point pour gagner de l'argent qu'il avait contribué à sauver monsignor Fabrice, qu'il l'avait toujours aimé, d'une affection particulière depuis qu'il avait eu l'honneur de le conduire une fois en sa qualité de troisième cocher de madame. Quand cet homme, qui réellement avait du cœur, crut avoir assez occupé une aussi grande dame, il prit congé. Mais elle, avec des yeux étincelants, lui dit « Restez !» Elle se promenait sans mot dire dans cette chambre de cabaret, regardant de temps à autre Ludovic avec des yeux incroyables. Enfin, cet homme, voyant que cette étrange promenade ne prenait point de fin, crut devoir adresser la parole à sa maîtresse. « Madame m'a fait un don tellement exagéré, tellement au-dessus de tout ce qu'un pauvre homme tel que moi pouvait s'imaginer, tellement supérieur surtout au faible service que j'ai eu l'honneur de rendre, que je crois en conscience ne pas pouvoir garder sa terre de la Ricciarda. J'ai l'honneur de rendre cette terre à madame et de la prier de m'accorder une pension de 400 francs. « Combien de fois en votre vie, lui dit-elle avec la hauteur la plus sombre, combien de fois avez-vous ouï dire que j'avais déserté un projet une fois énoncé par moi ?» Après cette phrase, la duchesse se promena encore durant quelques minutes. Puis, s'arrêtant tout à coup, elle s'écria. « C'est par hasard, et parce qu'il a su plaire à cette petite fille, que la vie de Fabrice a été sauvée. S'il n'avait été aimable, il mourrait. Est-ce que vous pourrez me nier cela ?» dit-elle en marchant sur Ludovic, avec des yeux où éclatait la plus sombre fureur. Ludovic recula de quelques pas et la crut folle, ce qui lui donna de vives inquiétudes pour la propriété de sa terre de la Ricciarda. « Eh bien, reprit la duchesse du ton le plus doux et le plus gai, et changé du tout au tout, je veux que mes habitants de Sac aient une journée folle et de laquelle ils se souviennent longtemps. Vous allez retourner à Sacca. Avez-vous quelque objection? Pensez-vous courir quelque danger? Peu de choses, madame. Aucun des habitants de Sacca ne dira jamais que j'étais de la suite de monseigneur Fabrice. D'ailleurs, si j'ose le dire à madame, je brûle de voir ma terre de la Ricciarda. Il me semble si drôle d'être propriétaire. Ta gaieté me plaît. Le fermier de la Ricciarda me doit, je pense, 3 ou 4 ans de son fermage. Je lui fais cadeau de la moitié de ce qu'il me doit et l'autre moitié de tous ses arrérages. Je te la donne. Mais à cette condition, tu vas aller à Sacca, tu diras qu'après-demain est le jour de la fête d'une de mes patronnes. Et, le soir qui suivra ton arrivée, tu feras illuminer mon château de la façon la plus splendide. N'épargne ni argent ni peine. Songe qu'il s'agit du plus grand bonheur de ma vie. De longues mains j'ai préparé cette illumination. Depuis plus de 3 mois, j'ai réuni dans les caves du château tout ce qui peut servir à cette noble fête. J'ai donné en dépôt au jardinier toutes les pièces d'artifice nécessaires pour un feu magnifique. Tu le feras tirer sur la terrasse qui regarde le pot. J'ai 89 grands tonneaux de vin dans mes caves. Tu feras établir 89 fontaines de vin dans mon parc. Si le lendemain il me reste une bouteille de vin qui ne soit pas bue, je dirai que tu n'aimes pas Fabrice. » Quand les fontaines de vin, l'illumination et le feu d'artifice seront bien en train, tu t'esquiveras prudemment, car il est possible, et c'est mon espoir, qu'à Parme, toutes ces belles choses-là paraissent une insolence. C'est ce qui n'est pas possible seulement, c'est sûr, comme il est certain aussi que le fiscal Rassi, qui a signé la sentence de Monsignor, en crèvera de rage. Et même, ajouta Ludovic avec timidité, si madame voulait faire plus de plaisir à son pauvre serviteur que de lui donner la moitié des arrérages de la Ricciarda, elle me permettrait de faire une petite plaisanterie à ce Rassi. Tu es un brave homme, s'écria la duchesse avec transport. Mais je te défends absolument de rien faire à Rassi. J'ai le projet de le faire pendre en public plus tard. Quant à toi, tâche de ne pas te faire arrêter à Sacca. Tout serait gâté si je te perdais. Moi, madame, quand j'aurais dit que je fête une des patronnes de madame, si la police envoyait 30 gendarmes pour déranger quelque chose, soyez sûr qu'avant d'être arrivé à la Croix-Rouge qui est au milieu du village, pas un d'eux ne serait à cheval. Ils ne se mouchent pas du coude, non, les habitants de Sacca. Tous contrebandiers finis et qui adorent madame. Enfin, reprit la duchesse d'un air singulièrement dégagé, si je donne du vin à mes braves gens de Sacca, je veux inonder les habitants de Parme. Le même soir où mon château sera illuminé, prends le meilleur cheval de mon écurie, cours à mon palais à Parme et ouvre le réservoir. « Ah, l'excellente idée qu'a madame !» s'écria Ludovic, riant comme un fou. « Du vin aux braves gens de Sacca, de l'eau aux bourgeois de Parme, qui étaient si sûrs, les misérables, que monseigneur Fabrice allait être empoisonné comme le pauvre elle. » La joie de Ludovic n'en finissait point. La duchesse regardait avec complaisance ses rires fous. Il répétait sans cesse « Du vin aux gens de Sacca et de l'eau à ceux de Parme !» Madame sait sans doute mieux que moi que lorsqu'on vida imprudemment le réservoir, il y a une vingtaine d'années, il y eut jusqu'à un pied d'eau dans plusieurs des rues de Parme. Et de l'eau, Jean de Parme, répliqua la duchesse en riant. La promenade devant la citadelle eût été remplie de monde si l'on eût coupé le cou à Fabrice. Tout le monde l'appelle le grand coupable. Mais surtout, fais cela avec adresse. Que jamais personne vivante ne sache que cette inondation a été faite par toi, ni ordonnée par moi. Fabrice, le comte lui-même, doivent ignorer cette folle plaisanterie. Mais j'oubliais les pauvres de Sacca. Va-t'en écrire une lettre à mon homme d'affaires que je signerai. Tu lui diras que pour la fête de ma sainte patronne, il distribue 100 sequins aux pauvres de Sacca, et qu'il t'obéisse en tout pour l'illumination, le feu d'artifice et le vin. Que le lendemain surtout, il ne reste pas une bouteille pleine dans mes caves. L'homme d'affaires de madame ne se trouvera embarrassé qu'en un point. Depuis 5 ans que madame a le château, elle n'a pas laissé 10 pauvres dans sa cave. Et de l'eau pour les gens de Parme, reprit la duchesse en chantant. Comment exécuteras-tu cette plaisanterie? Mon plan est tout fait. Je pars de Sacca sur les 9 heures. À 10h30, mon cheval est à l'auberge des Trois Ganaches, sur la route de Casal Maggiore et de ma terre de la Ricciarda. À 11h, je suis dans ma chambre au palais, et à 11h15, de l'eau pour les gens de Parme, et plus qu'ils n'en voudront, pour boire à la santé du grand coupable. 10 minutes plus tard, je sors de la ville par la route de Bologne. Je fais, en passant, un profond salut à la citadelle, que le courage de Monsignor et l'esprit de madame viennent de déshonorer. Je prends un sentier dans la campagne, de moi bien connu, et je fais mon entrée à la Ricciarda. Ludovic jeta les yeux sur la duchesse et fut effrayé. Elle regardait fixement la muraille nue à 6 pas d'elle, et, il faut en convenir, son regard était atroce. « Ah, ma pauvre terre !» pensa Ludovic. Le fait est qu'elle est folle. La duchesse le regarda et devina sa pensée. « Ah, monsieur Ludovic, le grand poète, vous voulez une donation par écrit? Courez me chercher une feuille de papier. » Ludovic ne se fit pas répéter cet ordre, et la duchesse écrivit de sa main une longue reconnaissance antidatée d'un an et par laquelle elle déclarait avoir reçu de Ludovic San Michele la somme de 80 000 francs et lui avoir donné en gage la terre de la Ricciarda. Si après 12 mois révolus la duchesse n'avait pas rendu les 80 000 francs à Ludovic, la terre de la Ricciarda resterait sa propriété. Il est beau, se disait la duchesse, de donner à un serviteur fidèle le tiers à peu près de ce qui me reste pour moi-même. Ah ça, dit la duchesse à Ludovic, après la plaisanterie du réservoir, je ne te donne que 2 jours pour te réjouir à Casal Maggiore. Pour que la vente soit valable, dis que c'est une affaire qui remonte à plus d'un an. Reviens me rejoindre à Belgirate, et cela sans le moindre délai. Fabrice ira peut-être en Angleterre où tu le suivras. » Le lendemain de bonne heure, la duchesse et Fabrice étaient à Belgirate. On s'établit dans ce village enchanteur, mais un chagrin mortel attendait la duchesse sur ce beau lac. Fabrice était entièrement changé. Dès les premiers moments où il s'était réveillé de son sommeil, en quelque sorte léthargique, après sa fuite, la duchesse s'était aperçue qu'il se passait en lui quelque chose d'extraordinaire. Le sentiment profond par lui, caché avec beaucoup de soin, était assez bizarre. Ce n'était rien moins que ceci. Il était au désespoir d'être hors de prison. Il se gardait bien d'avouer cette cause de sa tristesse. Elle eût amené des questions auxquelles il ne voulait pas répondre. « Mais quoi ? » lui disait la duchesse étonnée. « Cette horrible sensation lorsque la faim te forçait à te nourrir pour ne pas tomber, d'un de ces mets détestables fournis par la cuisine de la prison. Cette sensation, y a-t-il ici quelque goût singulier? Est-ce que je m'empoisonne en cet instant? Cette sensation ne te fait pas horreur? » « Je pensais à la mort, » répondait Fabrice, « comme je suppose qu'y pensent les soldats. C'était une chose possible que je pensais bien éviter par mon adresse. » Ainsi quelle inquiétude, quelle douleur pour la duchesse. Cet être adoré, singulier, vif, original, était désormais sous ses yeux en proie à une rêverie profonde. Il préférait la solitude même au plaisir de parler de toutes choses et à cœur ouvert à la meilleure amie qu'il eût au monde. Toujours il était bon, empressé, reconnaissant auprès de la duchesse. Il eût, comme jadis, donné 100 fois sa vie pour elle, mais son âme était ailleurs. On faisait souvent 4 ou 5 lieues sur ce lac sublime sans se dire une parole. La conversation, l'échange de pensées froides désormais possible entre eux, eût peut-être semblé agréable à d'autres. Mais eux se souvenaient encore, la duchesse surtout, de ce qu'était leur conversation avant ce fatal combat avec Giletti qui les avait séparés. Fabrice devait à la duchesse l'histoire des 9 mois passés dans une horrible prison, et il se trouvait que sur ce séjour, il n'avait à dire que des paroles brèves et incomplètes. Voilà ce qui devait arriver tôt ou tard, se disait la duchesse, avec une tristesse sombre. Le chagrin m'a vieilli, ou bien il aime réellement, et je n'ai plus que la seconde place dans son cœur. Avilie, atterrée par ce plus grand des chagrins possibles, la duchesse se disait quelquefois, si le ciel voulait que Ferrante fût devenu tout à fait fou ou manquât de courage, il me semble que je serais moins malheureuse. Dès ce moment, ce demi-remords empoisonna l'estime que la duchesse avait pour son propre caractère. Ainsi, se disait-elle avec amertume, je me repens d'une résolution prise. Je ne suis donc plus une Del Dongo. Le ciel l'a voulu, reprenait-elle. Fabrice est amoureux. Et de quel droit voudrais-je qu'il ne fût pas amoureux? Une seule parole d'amour véritable a-t-elle jamais été échangée entre nous? Cette idée si raisonnable lui ôta le sommeil. Et enfin, ce qui montrait que la vieillesse et l'affaiblissement de l'âme étaient arrivés pour elle avec la perspective d'une illustre vengeance. Elle était 100 fois plus malheureuse à Belgirate qu'à Parme. Quant à la personne qui pouvait causer l'étrange rêverie de Fabrice, il n'était guère possible d'avoir des doutes raisonnables. Clelia Conti, cette fille si pieuse, avait trahi son père, puisqu'elle avait consenti à enivrer la garnison. Et jamais Fabrice ne parlait de Clélia. Mais, ajoutait la duchesse, se frappant la poitrine avec désespoir, si la garnison n'eût pas été enivrée, toutes mes inventions, tous mes soins, devenaient inutiles. Ainsi, c'est elle qui l'a sauvée. C'était avec une extrême difficulté que la duchesse obtenait de Fabrice des détails sur les événements de cette nuit, qui, se disait la duchesse, autrefois eut formé entre nous le sujet d'un entretien sans cesse renaissant. Dans ces temps fortunés, il eût parlé tout un jour et avec une verve et une gaieté sans cesse renaissante sur la moindre bagatelle que je m'avisais de mettre en avant. Comme il fallait tout prévoir, la duchesse avait établi Fabrice au port de Locarno, ville suisse à l'extrémité du lac Majeur. Tous les jours, elle allait le prendre en bateau pour de longues promenades sur le lac. Eh bien, une fois qu'elle s'avisa de monter chez lui, elle trouva sa chambre tapissée d'une quantité de vues de la ville de Parme qu'il avait fait venir de Milan ou de Parme même, pays qu'il aurait dû tenir en abomination. Son petit salon, changé en atelier, était encombré de tout l'appareil d'un peintre à l'aquarelle et elle le trouva finissant une troisième vue de la tour Farnèse et du palais du gouverneur. « Il ne te manque plus, lui dit-elle d'un air piqué, que de faire de souvenir le portrait de cet aimable gouverneur qui voulait seulement t'empoisonner. »« Mais j'y songe, continua la duchesse. Tu devrais lui écrire une lettre d'excuse d'avoir pris la liberté de te sauver et de donner un ridicule à sa citadelle. » La pauvre femme ne croyait pas dire si vrai. À peine arrivée en lieu de sûreté, le premier soin de Fabrice avait été d'écrire au général Fabio Conti une lettre parfaitement polie et dans un certain sens bien ridicule. Il lui demandait pardon de s'être sauvé, alléguant pour excuse qu'il avait pu croire que certains subalternes de la prison avaient été chargés de lui administrer du poison. Peu lui importait ce qu'il écrivait, Fabrice espérait que les yeux de Clélia verraient cette lettre, et sa figure était couverte de larmes en l'écrivant. Il la termina par une phrase bien plaisante. Il osait dire que, se trouvant en liberté, souvent il lui arrivait de regretter sa petite chambre de la tour Farnèse. C'était là la pensée capitale de sa lettre. Il espérait que Clélia la comprendrait. Dans son humeur écrivante, et toujours dans l'espoir d'être lu par quelqu'un, Fabrice adressa des remerciements à Don César, ce bon aumônier qui lui avait prêté des livres de théologie. Quelques jours plus tard, Fabrice engagea le petit libraire de Locarno à faire le voyage de Milan, où ce libraire, ami du célèbre bibliomane Rena, acheta les plus magnifiques éditions qu'il put trouver des ouvrages prêtés par Don César. Le bon aumônier reçut ses livres et une belle lettre qui lui disait que, dans des moments d'impatience, peut-être pardonnables à un pauvre prisonnier, on avait chargé les marges de ses livres de notes ridicules. On le suppliait en conséquence de les remplacer dans sa bibliothèque par les volumes que la plus vive reconnaissance se permettait de lui présenter. Fabrice était bien bon de donner le simple nom de notes aux griffonnages infinis dont il avait chargé les marges d'un exemplaire in folio des œuvres de Saint Jérôme. Dans l'espoir qu'il pourrait renvoyer ce livre au bon aumônier et l'échanger contre un autre, il avait écrit jour par jour sur les marges un journal fort exact de tout ce qui lui arrivait en prison. Les grands événements n'étaient autre chose que des extases d'amour divin. Ce mot divin en remplaçait un autre qu'on osait écrire. Tantôt cet amour divin conduisait le prisonnier à un profond désespoir, d'autres fois une voix entendue à travers les airs rendait quelque espérance et causait des transports de bonheur. Tout cela, heureusement, était écrit avec une encre de prison, formée de vin, de chocolat et de suie, et dont César n'avait fait qu'y jeter un coup d'œil en replaçant dans sa bibliothèque le volume de Saint-Jean. S'il en avait suivi les marges, il aurait vu qu'un jour, le prisonnier, se croyant empoisonné, se félicitait de mourir à moins de 40 pas de distance de ce qu'il avait aimé le mieux dans ce monde. Mais un autre œil que celui du bonhomme avait lu cette page depuis la fuite. Cette belle idée, mourir près de ce qu'on aime, exprimée de 100 façons différentes, était suivie d'un sonnet où l'on voyait que l'âme séparée, après des tourments atroces, de ce corps fragile qu'elle avait habité pendant 23 ans, poussée par cet instinct de bonheur naturel à tout ce qui exista une fois, ne remonterait pas au ciel se mêler au cœur des anges aussitôt qu'elle serait libre, et dans le cas où le jugement terrible lui accorderait le pardon de ses péchés. Mais que, plus heureuse après la mort qu'elle n'avait été durant la vie, elle irait à quelques pas de la prison où si longtemps elle avait gémi, se réunir à tout ce qu'elle avait aimé au monde. Et ainsi, disait le dernier vers du sonnet, j'aurais trouvé mon paradis sur la terre. Quoiqu'on ne parlât de Fabrice à la citadelle de Parme que comme d'un traître infâme qui avait violé les devoirs les plus sacrés, toutefois le bon prêtre Don César fut ravi par la vue des beaux livres qu'un inconnu lui faisait parvenir. Car Fabrice avait eu l'attention de n'écrire que quelques jours après l'envoi, de peur que son nom ne fît renvoyer tout le paquet avec indignation. Don César ne parla point de cette attention à son frère, qui entrait en fureur au seul nom de Fabrice. Mais depuis la fuite de ce dernier, il avait repris toute son ancienne intimité avec son aimable nièce, et comme il lui avait enseigné jadis quelques mots de latin, il lui fit voir les beaux ouvrages qu'il recevait. Tel avait été l'espoir du voyageur. Tout à coup, Clélia rougit extrêmement. Elle venait de reconnaître l'écriture de Fabrice. De grands morceaux fort étroits de papier jaune étaient placés en guise de signets en divers endroits du volume. Et comme il est vrai de dire qu'au milieu des plats intérêts d'argent et de la froideur décolorée des pensées vulgaires qui remplissent notre vie, les démarches inspirées par une vraie passion manquent rarement de produire leur effet. Comme si une divinité propice prenait le soin de les conduire par la main, Clélia, guidée par cet instinct et par la pensée d'une seule chose au monde, demanda à son oncle de comparer l'ancien exemplaire de Saint Jérôme avec celui qu'il venait de recevoir. Comment dire son ravissement au milieu de la sombre tristesse où l'absence de Fabrice l'avait plongée, lorsqu'elle trouva sur les marges de l'ancien Saint Jérôme le sonnet dont nous avons parlé et les mémoires, jour par jour, de l'amour qu'on avait senti pour elle. Dès le premier jour, elle sut le sonnet par cœur. Elle le chantait, appuyée sur sa fenêtre, devant la fenêtre désormais solitaire, où elle avait vu si souvent une petite ouverture se démasquer dans l'abat-jour. Cet abat-jour avait été démonté pour être placé sur le bureau du tribunal et servir de pièce à conviction, dans un procès ridicule que Rassi instruisait contre Fabrice, accusé du crime de s'être sauvé, ou, comme disait le fiscal en riant lui-même, de s'être dérobé à la clémence d'un prince magnanime. Chacune des démarches de Clélia était pour elle l'objet d'un vif remords. Et depuis qu'elle était malheureuse, les remords étaient plus vifs. Elle cherchait à apaiser un peu les reproches qu'elle s'adressait en se rappelant le vœu de ne jamais revoir Fabrice, fait par elle à la Madone lors du demi-empoisonnement du général, et depuis chaque jour renouvelé. Son père avait été malade de l'évasion de Fabrice, et de plus, il avait été sur le point de perdre sa place lorsque le prince, dans sa colère, destitua tous les geôliers de la tour Farnèse et les fit passer comme prisonniers dans la prison de la ville. Le général avait été sauvé en partie par l'intercession du comte Mosca, qui aimait mieux le voir enfermé au sommet de sa citadelle que rival actif et intrigant dans les cercles de la cour. Ce fut pendant les 15 jours que dura l'incertitude relativement à la disgrâce du général Fabio Conti, réellement malade, que Clélia eut le courage d'exécuter le sacrifice qu'elle avait annoncé à Fabrice. Elle avait eu l'esprit d'être malade le jour des réjouissances générales, qui fut aussi celui de la fuite du prisonnier, comme le lecteur s'en souvient peut-être. Elle fut malade aussi le lendemain, et en un mot, sut si bien se conduire qu'à l'exception du geôlier Grillot, chargé spécialement de la garde de Fabrice, personne n'eut de soupçon sur sa complicité. Et Grillot se tut. Mais aussitôt que Clélia n'eut plus d'inquiétude de ce côté, elle fut plus cruellement agitée encore par ses justes remords. « Quelle raison au monde, se disait-elle, peut diminuer le crime d'une fille qui trahit son père ?» Un soir, après une journée passée presque tout entière à la chapelle et dans les larmes, elle pria son oncle, Don César, de l'accompagner chez le général, dont les accès de fureur l'effrayaient d'autant plus qu'à tout propos il y mêlait des imprécations contre Fabrice, cet abominable traître. Arrivée en présence de son père, elle eut le courage de lui dire que si toujours elle avait refusé de donner la main au marquis Crescenzi, c'est qu'elle ne sentait aucune inclination pour lui et qu'elle était assurée de ne point trouver le bonheur dans cette union. À ces mots, le général entra en fureur et Clélia eut assez de peine à reprendre la parole. Elle ajouta que si son père, séduit par la grande fortune du marquis, croyait devoir lui donner l'ordre précis de l'épouser, elle était prête à obéir. Le général fut tout étonné de cette conclusion à laquelle il était loin de s'attendre. Il finit pourtant par s'en réjouir. « Ainsi, dit-il à son frère, je ne serai pas réduit à loger dans un second étage si ce polisson de Fabrice me fait perdre ma place par son mauvais procédé. » Le comte Mosca ne manquait pas de se montrer profondément scandalisé de l'évasion de ce mauvais sujet de Fabrice, et répétait dans l'occasion la phrase inventée par Rassi sur le plat procédé de ce jeune homme, fort vulgaire d'ailleurs, qui s'était soustrait à la clémence du prince. Cette phrase spirituelle, consacrée par la bonne compagnie, ne prit point dans le peuple. Laissé à son bon sens, et tout en croyant Fabrice fort coupable, il admirait la résolution qu'il avait fallu pour se lancer d'un mur si haut. Pas un être de la cour n'admira ce courage. Quant à la police, fort humiliée de cet échec, elle avait découvert officiellement qu'une troupe de 20 soldats, gagnée par les distinctions d'argent de la duchesse, cette femme si atrocement ingrate, et dont on ne prononçait plus le nom qu'avec un soupir, avait tendu à Fabrice 4 échelles liées ensemble et de 45 pieds de longueur chacune. Fabrice, ayant tendu une corde qu'on avait liée aux échelles, n'avait eu que le mérite, fort vulgaire, d'attirer ces échelles à lui. Quelques libéraux, connus par leur imprudence, et entre autres le médecin C, agent payé directement par le prince, ajoutaient, mais en se compromettant, que cette police atroce avait eu la barbarie de faire fusiller 8 des malheureux soldats qui avaient facilité la fuite de cet ingrat de Fabrice. Alors il fut blâmé même des libéraux véritables, comme ayant causé par son imprudence la mort de 8 pauvres soldats. C'est ainsi que les petits despotismes réduisent à rien la valeur de l'opinion.